Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
À l'école de vertu, c'est tout le programme de la semaine, dans ces différents entretiens, et le programme la semaine prochaine pour intervenante, c'est Kitri Didier que je reçois. Bonjour Kitri.
Bonjour.
Merci, encore merci de votre endurance, persévérance dans ces différents entretiens, et nous nous mettons avec vous à l'école des vertus. Comment devenir plus vertueux, ne pas se décourager, mais recommencer chaque jour un peu plus. Je reprendrai une de, puisque vous m'avez écrit pour préparer ces différents entretiens, que vous avez bien travaillé, vous écrivez sur cette finalité et autour de ce thème des vertus, la finalité et la sainteté. Rappelle-toi, devenir très humain, c'est notre travail. Devenir très divin, c'est le travail de Dieu en nous. C'est encourageant de savoir que le bon Dieu ne nous laisse pas face à nous-mêmes, face à ces misères, ces découragements, ces paresses parfois, et cette oisiveté peut-être aussi qui trie Didier. Alors, quelle est la bonne nouvelle dans ces finalités? C'est que nous sommes tous appelés à ce chemin de sainteté, plus près de Dieu.
Nous sommes tous appelés à ce chemin de sainteté, et cette sainteté est réalisable. C'est le rêve de Dieu, il réalise tous ses rêves. Donc cette sainteté, ce n'est pas un mirage.
Même pour le plus misérable, le plus grand des pécheurs. Même le plus grand des criminels.
Même le plus grand des criminels. La sainteté, elle est vraiment donnée à tous par le Seigneur. On est vraiment fait pour ça. De la même façon qu'un petit enfant devient un adulte, eh bien, un baptisé devient un saint. Hein, avec la grâce de Dieu, bien sûr. Donc sa coopération, ça va être justement la pratique des vertus, développer ses vertus humaines, et puis le travail de la grâce va faire la sanctification. Pratiquer les vertus, en fait, c'est se laisser sanctifier par le Christ, sanctifier les autres aussi par le travail des vertus, hein, et puis se laisser transformer profondément, petit à petit, sans forcément voir le résultat tout de suite.
Et on ne voit pas toujours un résultat.
Et on ne voit pas toujours le résultat.
Il n'est pas toujours immédiat.
On ne voit pas toujours le résultat. C'est cette persévérance. Chaque matin, je commence, je recommence. Hein. C'est assez fou d'ailleurs de se dire que la miséricorde de Dieu est tellement immense que chaque matin, je peux me dire, je peux lui dire, je peux dire à mon époux, mon épouse, mes amis, je commence. Aujourd'hui, je commence. Aujourd'hui, je commence. C'est fou. Et la pratique vertueuse, c'est aujourd'hui je commence, aujourd'hui je recommence. Donc la sainteté, c'est quand même magnifique. Hein. Voilà, c'est tombé un peu dans les oubliettes, hein, quand on croit tout de suite être un saint, c'est être parfait, absolument pas. C'est un chemin magnifique, progressif, et vraiment qui correspond à notre nature humaine blessée.
On parle si peu aussi de cette sainteté. C'est pas un programme à la mode aujourd'hui, Kitri.
C'est pas un programme à la mode aujourd'hui. Et pourtant, la seule façon de changer le monde, c'est d'être des saints. Donc, vous voyez, toutes ces grandes entreprises qui ont peut-être le désir, des désirs variés d'ailleurs, de profit, etc., mais qui veulent quand même transformer les choses, qui veulent transformer le monde, faire progresser ce monde scientifiquement, techniquement, font travailler des hommes et des femmes qui ont les vertus humaines à leur portée. Et les vertus humaines, c'est ce qui change le monde. Faire le bien change le monde. Il n'y a pas d'autre moyen de changer le monde que de faire le bien. En fait, c'est ça qui change le monde, faire le bien. Donc, devenir des saints, c'est changer le monde. Saint José Maria, que j'aime beaucoup, dit « Les crises de ce monde sont des crises de saints. » Voilà, il suffit d'un saint pour en avoir des dizaines d'autres autour, et hop, le monde commence à prendre une nouvelle direction, la direction du bien, la direction du bonheur. Mmh. Voilà.
C'est un vrai programme, en fait.
C'est un vrai programme.
Tout autour de ces vertus, c'est ce chemin. L'homme est fait pour ce chemin de vie.
L'homme est fait pour ce chemin de vie.
Qui est un chemin de bonheur dans la finalité du programme.
C'est un bonheur ici et maintenant. En fait, désirer la sainteté et la pratiquer chaque jour, voilà, essayer de pratiquer les vertus chaque jour, c'est un chemin de bonheur ici et maintenant. Parce que Dieu veut que nous soyons heureux ici et maintenant.
Alors, vous parlez beaucoup de cette sainteté. Choisir ce chemin de sainteté est un acte d'humilité posé. Quitterie.
Oui, c'est vraiment un acte d'humilité et de magnanimité. Alors, on n'a pas beaucoup parlé encore de toutes ces vertus dans le détail. Peut-être qu'on peut en parler aujourd'hui. Humilité, magnanimité. Alors, humilité et magnanimité, en effet, c'est les deux vertus qui sont connexes. Les deux vont ensemble. En fait, pour vouloir être un saint, pour désirer la sainteté, il va falloir à la fois se reconnaître pécheur, petit, vulnérable, et à la fois désirer de grandes choses. L'humilité, c'est l'habitude de vivre dans la vérité sur soi, la vérité sur Dieu, sur les autres, sur la création, voilà. Et la magnanimité, c'est l'habitude de désirer de grandes choses. Donc ça peut paraître irréconciliable les deux. On peut se dire comment on peut être humble et magnanime à la fois. En fait, c'est une bonne nouvelle encore une fois, mais en fait les deux vont vraiment ensemble. Voilà, c'est la charité aussi qui va beaucoup lier les deux, hein, de vouloir, vouloir servir les autres. L'humilité, on va beaucoup la pratiquer, par exemple, en servant les autres, hein, en voulant se faire petit au service des autres. On pense à notre Seigneur, hein, quand il se met à laver les pieds de ses disciples. Hein, il est vraiment le modèle parfait de l'humilité. La magnanimité, c'est vraiment désirer de grandes choses, c'est-à-dire voir dans l'autre, voir en moi, voir dans l'autre, quelqu'un qui a une immense dignité et qui est appelé à la sainteté. Donc à quelque chose de grand, à un chemin très grand. Donc c'est désirer de grandes choses pour l'autre, pour moi-même et pour l'autre aussi. C'est le voir avec tout son potentiel de croissance. Moi je suis frappée de certains regards de parents pour leurs petits-enfants. Hein, il y a des regards de parents qui regardent leurs enfants avec émerveillement et on voit presque le potentiel de croissance dans le regard des parents. L'enfant est magnifique. Je crois que Dieu nous regarde de cette façon-là, et de façon parfaite, lui. Donc, c'est-à-dire qu'il voit toutes nos vulnérabilités, nos infirmités, nos faiblesses, nos blessures, et il voit tout ce potentiel, voilà, et il nous voit déjà comme des saints. Donc, humilité et magnanimité, c'est deux vertus qu'on peut pratiquer ensemble. Alors
au quotidien.
Voilà, ouais. Au quotidien.
Quelle est la méthode pour pratiquer ces vertus?
Alors il y a plusieurs pistes, hein, plusieurs pistes. La magnanimité, ces deux vertus du cœur, ces deux vertus demandent une conversion du cœur. Donc c'est pas forcément facile d'entrer dans le concret. Mais la magnanimité, d'abord, ça c'est Alexandre Diani Navard qui donne ça comme conseil. C'est une personne qui m'inspire beaucoup. Il dit il faut s'entourer de personnes magnanimes, c'est-à-dire créer autour de soi un environnement magnanime qui nous permette de rêver en grand, qui nous permette d'avoir des horizons larges, pas un regard raccourci et court sur les choses, sur l'événement, sur ce monde, avec tous ces risques, tous ces drames. On peut en être très conscient, mais avoir quand même un regard grand. Donc des lectures, des personnes, des amitiés, des films, voilà. Et puis aussi, du coup, s'écarter de choses qui nous rapetissent, de lectures qui nous rapetissent, de films qui nous rapetissent, de toutes ces choses de notre environnement. De relations aussi peut-être qui nous tirent vers le bas. Repérer ce qui nous fragmente intérieurement, voilà. Hein. Et s'entourer, créer cet environnement dans lequel on va pouvoir développer ce regard magnanime. L'humilité dans la méthode, il y a se faire accompagner. Ça, c'est vraiment une clé, hein, pour comprendre quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses. Alors, c'est pas forcément par un père spirituel ou une religieuse. Ça peut être un très bon ami, ça peut être quelqu'un un peu plus sage, une grand-mère, un grand-père. Ça peut être un professeur. Donc, parce que l'humilité, c'est quand même un travail de sincérité sur soi. Hein.
Est-ce qu'on est dans un travail de conversion aussi?
Oui, c'est vraiment un travail de conversion. L'humilité, on aura jusqu'à la fin de notre vie, on aura toujours beaucoup d'orgueil. Et c'est d'ailleurs ne pas s'étonner de tout cet orgueil. Voilà, ne pas s'en étonner de le voir chez les autres, de le voir chez nous. On est blessé.
Éviter encore une fois le découragement.
Éviter le découragement. En tout cas, l'humilité aussi, ça se travaille à travers nos échecs. Voilà, les difficultés qu'on traverse, les échecs, les pièges dans lesquels on est tombé.
On a raté un petit peu la cible.
Voilà, quand on a raté un peu la cible, se dire que c'est l'occasion de grandir en humilité. C'est l'occasion de se dire aussi que pour le Seigneur, cet échec, c'est une réussite. C'est-à-dire que s'il a permis que je passe par là, c'est qu'il voulait que je grandisse au moins en humilité, en connaissance sur moi, peut-être que j'apprenne des choses sur moi, sur les autres, sur une sagesse. Donc ça, voilà, toute vie va traverser des moments difficiles, et tous ces moments sont aussi des moments où on façonne notre personnalité, notre caractère, et on travaille cette humilité.
Donc c'est plutôt aussi une bonne nouvelle.
Oui,
les erreurs d'une vie.
C'est vrai que les erreurs d'une vie, alors c'est difficile, moi j'ai 42 ans, je sais que j'ai eu des moments difficiles d'erreurs comme ça, où j'ai vécu ça violemment. Donc c'est difficile de le dire, c'est facile, hein, de l'intégrer, c'est difficile. Mais voilà, se dire que ce chemin est possible et avancer vers cette vérité-là qui libère, c'est-à-dire que ces erreurs que j'ai faites ou ces difficultés que j'ai traversées, eh bien, le Seigneur les voulait, et pour lui, c'était des réussites. Donc, Seigneur, explique-moi, pourquoi pour toi, c'est des réussites ? Dis-moi ce que tu voulais que je vive, que j'apprenne, dans quoi tu voulais que je grandisse, qu'est-ce que tu voulais que je découvre à travers ces difficultés.
En fait, ce qu'on peut entendre, c'est qu'à travers tout échec, toute difficulté, le Seigneur, ce regard du Père, hein, sur son fils, sur sa fille, sur son enfant, c'est pour l'aider à grandir. C'est une question de croissance.
C'est une question de croissance.
Il veut nous faire grandir, donc c'est pour notre bien.
Lui, son but, c'est notre sainteté. Son but, lui, il veut qu'on soit des saints. Donc, c'est pas des saints...
Au fond, c'est son programme pour chacun d'entre nous.
C'est son programme.
S'il fallait résumer en un mot, et on se retrouve demain, car c'est la fin de cet entretien.
Oui, déjà.
Plus de 10 minutes, hein. C'est trop tard. On va résumer. Le but du Père, c'est qu'il propose, dans cette liberté de chacun et chacune, un chemin de sainteté. Libre à nous de dire oui ou de dire non.
Merci.
On vous dit à demain.
Oui, à demain.
Merci, Kitridier.